Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
La brisure et l'envol, fragment d'une traversée intérieure, c'est le titre de cette série, mais c'est surtout le titre de ce dernier ouvrage. Éric de Ruse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur de ce dernier petit livre qui est un peu l'histoire, non pas de toute une histoire de vie, d'un parcours personnel, mais au fond d'une expérience. Et on sera tout sur cette expérience dans quelques instants et puis tout au long de la série. Je rappelle que vous êtes agrégé et docteur en philosophie, que vous enseignez. Vous avez aussi écrit de nombreux ouvrages, spécialiste de Saint-Edith-Stein, une amitié, une histoire de plus de 20 ans, amitié qui conduit aussi à une intériorité de cette vie spirituelle.
Oui, je pense, parce que c'est quelque chose de fondamental chez Edith Stein que l'intériorité de la personne humaine. Et donc, quand on vit en communion d'amitié avec une telle personne, une telle amie qu'est Edith Stein, eh bien, inévitablement, ça vous conduit sur un chemin intérieur. Ce n'est pas simplement un objet de pensée. Et donc, ça forge aussi, ça vous creuse, ça vous transforme.
Alors, vous avez été transformé. Transformé, est-ce qu'on peut aller jusqu'à la transformation aussi de votre corps, d'un corps qui a été meurtri, qui a été malmené par l'épreuve de la maladie, un corps qui a été mis à terre, fragilisé.
Oui, complètement. Exactement. En tout cas, cet ouvrage, donc je n'avais pas l'intention d'écrire comme un ouvrage, puisque c'était pendant une longue convalescence suite à une grave infection. Et donc, une longue convalescence pendant laquelle j'ai jeté sur le papier des notes, des intuitions, toutes vécues à partir du corps, parce que ce qui caractérise l'expérience de l'effondrement, comme je l'appelle, c'est la mise à terre, le corps qui vous lâche, la volonté qui n'a plus les moyens de contrer ce corps qui vous lâche. Vous êtes à terre, tout s'effondre. Et quelque chose doit être vécu que vous ne savez pas, mais il faut y entrer.
Quelque chose que vous ne maîtrisez pas, au fond.
Ah ben non, là, je ne maîtrisais plus rien.
C'est un inconnu.
C'est l'inconnu, d'où l'insécurité, c'est l'inconnu. Alors, j'ai mis d'ailleurs en exergue de ce livre une phrase d'Emily Dickinson, que j'aime beaucoup, « Aie confiance en l'inconnu ». Et ça m'a beaucoup aidé parce que je devais entrer dans cet inconnu par définition, ce que je ne maîtrise pas, mais je devais découvrir que c'était un chemin. J'ai voulu donc en tâtonnant, j'ai voulu entrer dans cet inconnu d'un corps qui me mettait à terre et dans une expérience d'arrêt.
Et puis de grande fragilité.
De grande fragilité d'abord parce que c'est le corps qui commande.
C'est une déroute.
C'est une déroute. Exactement, vous ne tenez plus les rênes. En un sens, c'est l'état physique dans lequel vous vous trouvez qui rythme vos journées aussi, avec l'extrême fatigue, etc. Et donc là, tout est suspendu, tout est défait, tout est interrompu.
Est-ce que, oui, le temps s'arrête ?
Le temps s'arrête, en tout cas le temps chronologique dans lequel...
De l'activité.
Voilà, le temps de l'activité, c'est-à-dire le temps dans lequel on est tous pris au quotidien. Ce temps qui est un rythme très rapide, où les activités s'enchaînent, où il faut être productif, où on attend de vous des choses. Là, puisque tout est mis entre parenthèses, vous finissez par ne plus exister au fond socialement, quand même, déjà. Et puis, vous n'avez plus d'échéance, de cahier des charges. On n'attend plus rien temporairement de vous. Donc tout s'arrête. Et puis, vous n'avez plus les capacités non plus, à cause de l'extrême fatigue, à cause de la fragilité, de suivre durablement un projet soutenu. Donc, vraiment, vous êtes mis au banc, il y a une sorte...
On n'attend plus rien de vous. Non. C'est une forme, au fond, douloureuse d'expérience d'insécurité.
Oui.
Et d'inutilité.
Ah oui, complètement d'inutilité et d'insécurité, parce que ce qui est très insécurisant, c'est de perdre pied. Parce que le corps, c'est quand même la solidité du corps, c'est le premier point d'appui. On éprouve la stabilité par le fait qu'on a un corps qui fonctionne bien, qui répond.
Qui donne l'équilibre.
Qui donne l'équilibre, qui répond. Là, ne serait-ce que la position couchée quand vous êtes malade. Enfin, vraiment, c'est insécurisant de perdre ce point d'appui et d'entrer vraiment dans l'inconnu, parce que vous ne savez pas jusqu'où le corps va continuer à vous lâcher, si il pourra à nouveau répondre et si vous pourrez reprendre la vie que vous aviez. Donc vous ne savez plus rien et vous ne pouvez plus remplir le cahier des charges que vous remplissiez jusqu'alors, en fait.
D'où l'effondrement. L'homme s'est effondré.
Je parle du glébeux, je rejoignais la terre, enfin quelque chose d'originel. Non, j'étais vraiment à terre. Alors en plus, je l'ai vécu pendant un printemps quand même aussi. Enfin, les premières semaines, c'était le printemps. Et pour moi, il y avait une sorte d'opposition entre la beauté de ce printemps, la lumière, la vie qui naissait.
Le cerisier, le beau cerisier oui, de ce jardin.
Le cerisier du jardin dont j'ai vu et les fleurs, etc. Et puis, par opposition, je dirais, moi, j'étais dans la nuit, dans l'écrasement, dans un hiver intérieur où tout est figé, comme l'hiver, où tout est gelé. En tout cas, il y avait une sorte d'opposition. En même temps, il y avait la vie qui m'appelait au dehors. Il y avait cette vie qui me parlait à travers tous les éléments, la beauté des éléments. Mais moi, j'étais incapable d'être accordé. J'étais à l'opposé. J'étais dans la nuit, dans l'effondrement, dans la fragilité, dans l'immobilité.
Et dehors, c'était une saison, c'était le printemps, c'était la renaissance.
C'était la renaissance. Alors, ça ne me blessait pas. Ce n'était pas quelque chose qui était comme douloureux parce que je voyais ce que je n'étais pas. Non, c'était un véritable réconfort de me dire, au fond, la vie est victorieuse. La nature me dit que c'est la vie qui est victorieuse, c'est la vie qui renaît en permanence, même si moi, dans mon corps, je ne l'éprouve pas. Mais je le crois, parce que je le crois.
Ce corps dans l'obscurité, oui. Ce corps qui s'effondre, oui. Ce corps qui est douloureux, ce corps qui va vers un inconnu,
oui.
Il y a un regard, et un regard qui contemple la beauté de la création, de la nature. Donc c'est un corps douloureux dans la contemplation.
Alors c'est très beau ce que vous dites, parce que je n'y pensais pas quand je le vivais comme cela. Je ne me voyais pas contempler. Je ne me voyais pas contempler, mais le fait est, c'est que je me nourrissais de tous ces fragments de vie, de beauté, de lumière autour de moi. Je m'y accrochais peut-être inconsciemment, mais moi, ça, je ne le savais pas. Alors, étonnamment, oui, après, en relisant, je le jetais sur le papier, mais sur le moment, je n'avais pas conscience. J'étais là, spectateur d'un cadeau inouï, de ce qui m'entourait, mais moi, je ne goûtais pas non plus complètement cela. Je l'observais, je m'en émerveillais, c'est vrai, mais moi j'étais retenu quand même dans cette captivité d'un corps
prisonnier.
Douloureux. Ben oui, dans la captivité d'un corps douloureux, écrasé. Chaque matin, ce corps qui est douloureux, il faut, comme je le dis, briser la chrysalide, comme la chrysalide qui va devenir un papillon, mais moi je ne savais pas si j'allais devenir un papillon. Mais j'étais dans une geôle étroite, un corps douloureux qu'il fallait chaque jour recommencer. Et on ne savait pas comment on allait arriver jusqu'au bout de la journée. Il fallait tenir, il fallait traverser, mais je ne savais pas.
Alors
vraiment.
Vous parlez d'un corps douloureux. Mm-hmm. Quel était l'état du cœur? Le cœur était douloureux lui aussi?
Alors le cœur, je crois que dans le tréfonds, le cœur était en paix. Le cœur était en paix parce que, en un sens, comme je l'écrivais une fois dans un poème, tout commence lorsque tout est perdu. Il y avait une sorte d'agenouillement, même d'écrasement. J'étais à terre. Donc quand vous êtes à terre, au fond, vous n'avez plus rien à prouver. Vous n'aurez plus rien à conquérir, à faire valoir. Donc en un sens, j'étais quand même libéré du faire valoir, du conquérir, de la performance quand même dans laquelle on est au quotidien. Donc, je n'avais plus à faire mes preuves, j'étais en paix, j'étais abandonné, je dirais, livré, à quoi je ne le savais pas. Enfin, dans la foi, je croyais que le maître de la vie était là, mais je ne comprenais vraiment pas où il voulait me mener, ce qui m'arrivait. Je savais que ça avait un nom, mais moi, je ne voyais pas sur quoi ça pouvait déboucher. C'était de moment en moment, comme dit Thérèse de l'Enfant Jésus. De moment en moment. Voilà, c'est tout.
Alors, vous écrivez, c'était le moment favorable qui m'est proposé. Je pressens obscurément dans cet abîme la possibilité inespérée, et c'est très beau, d'entrer en amitié avec la vie. Au fond, ce corps douloureux, hein, ce corps qui ne comprend pas ce qui est en train d'être traversé, vous fait peut-être plus que jamais aller jusqu'au bout pour entrer en amitié avec la vie, en amitié avec cette création, cette
Exactement.
Saison, ce printemps qui renaît.
Oui, c'est tellement vrai, c'est dans la fragilité extrême du corps, et là on ne peut pas se mentir ou la contourner, le corps vous l'impose, dans cette fragilité-là, je pouvais me laisser rejoindre, parce que j'étais vulnérable, je pouvais me laisser rejoindre par quelque chose de plus grand que moi, parce que je ne tenais plus les rênes. Et c'est là l'amitié avec la vie. C'est que dans l'amitié, en un sens, vous êtes choisi, vous rencontrez ce qui vous demande, comme dans Le Petit Prince, « apprivoise-moi ». Eh bien, la vie au dehors voulait m'apprivoiser dans ma fragilité. Moi, je pouvais me laisser apprivoiser. Je n'étais plus sur la défensive parce que je réalisais que la manière habituelle de vivre, c'est plutôt la performance. On s'inflige à nous-mêmes une violence au quotidien incroyable pour être à la hauteur, pour réussir, pour prouver, pour arriver. Et il le faut aussi à certains moments. Mais là, de tout cela, j'étais libéré, délivré, et plutôt que m'infliger à moi-même cette violence, je pouvais enfin m'ouvrir à ce qui est. M'ouvrir à ce qui est, parce que au-delà de mes petits combats, il y avait la grande vie. Il y avait quelque chose, finalement, que mes combats n'empêchaient pas. Le cerisier continuait à fleurir, les abeilles faisaient leur travail, le soleil se levait, se couchait. Il y avait le grand travail de la création en enfantement, comme dit saint Paul. Alors moi, j'étais sans doute aussi dans cet enfantement, mais cela était indépendant de mes petits combats, de mes misères, même si elles étaient réelles.
Éric Darrus, merci. C'est la fin de ce premier rendez-vous pour cette nouvelle série que je propose cette semaine. Vous avez écrit donc La brisure et l'envol avec ce sous-titre et puis on y reviendra au cours de ces échanges de la semaine, fragment d'une traversée intérieure. On peut dire que c'est une traversée intérieure qui fait vivre à l'homme finalement ces moments un peu inespérés de la vie.
Inespérés.
De surprise en surprise.
Oui, c'est exactement
ça. Retrouve avec un corps fragile, immobilisé, pour peut-être entrer en amitié avec la beauté, la grandeur de la création, la beauté de la vie. Éric Darrus, rendez-vous demain, même lieu, même heure. Et merci.
Merci beaucoup.